Xavier Lépine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire du FG-LFP. On va parler avec vous, bien sûr, de marché financier, de perspective. Alors, vous avez écrit, vous, en pleine tourmente du mois d'août, un plaidoyer pour une gouvernance mondiale. On y reviendra. On verra si, effectivement, on peut avancer de ce côté-là. En attendant, clairement, ça a été un mois d'août catastrophique pour les marchés financiers. On a senti surtout une espèce de peur. On a vu la volatilité remonter très fort. On a vu effectivement les investisseurs vendre tout ce qu'ils pouvaient vendre dans quelques jours. C'est quand même étonnant. Ce n'était pas le scénario qu'on avait sur cette année 2011. Ou en tout cas, en début d'année, personne n'envisageait qu'on ait cette peur-là.
Tout à fait. Bon, il est clair que les économistes ont toujours tendance, et c'est naturel, à continuer les trajectoires amorcées. On pouvait aussi raisonnablement penser qu'avec tout l'argent qui avait été injecté dans l'économie depuis 2008, que ce soit par les déficits budgétaires comme par la politique de taux d'intérêt extrêmement bas, on avait un système qui était en train de repartir. Alors qu'est-ce qu'on a eu qui a fait déraper ça finalement? C'est la conjonction de plusieurs phénomènes. Des phénomènes structurels et des phénomènes conjoncturels. Structurel, ce qui avait causé les problèmes de 2008 n'avait pas été adressé au sens anglo-saxon du terme. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que on est passé d'une suprématie occidentale à finalement au village global et on a laissé de côté 10% de la population dans les pays occidentaux qui de fait se retrouvent structurellement au chômage. On a bouché les trous en faisant du déficit d'un côté, en faisant du crédit de l'autre, mais finalement on n'a pas redonné un élan réel à l'activité économique. Et tout cet argent qu'on a injecté dans l'économie en Occident est largement reparti vers les usines du tiers-monde. Donc finalement, la croissance interne n'était pas tellement au rendez-vous. Ça, c'est le problème structurel. Ensuite, les problèmes conjoncturels ou régionaux. Premier problème conjoncturel, c'est le ralentissement de la Chine au premier trimestre, premier semestre de 2011. Le ralentissement de la Chine a des effets dépressifs sur l'ensemble de l'économie mondiale. À partir du moment où la Chine représente 15% du PIB mondial, qu'elle a 10% de croissance, elle prend elle toute seule 1,5% de la croissance. Quand elle ralentit,
le monde ralentit.
Et le monde ralentit où ? Bien là où il y a des exportations vers la Chine, c'est-à-dire singulièrement, il y a trois pays qui exportent vers la Chine, c'est le Japon, les États-Unis, l'Allemagne. Eh bien, il n'y a pas de mystère, en dehors du problème de Fukushima, ces trois pays ont ralenti par un effet mécanique récessif de la Chine. Ça, c'est le problème conjoncturel. Le problème conjoncturel de l'Europe, on le connaît tous maintenant.
La dette souveraine.
C'est la dette souveraine, c'est un modèle d'euros, d'une monnaie sans État, et dont on retrouve toutes les difficultés. C'est comme si vous mettez un compte joint avec quelqu'un, mais sans vouloir partager autre chose que le compte en banque, et sans aucun pouvoir sur ce compte en banque. On voit bien qu'à un moment donné,
alors,
ça
on a vu effectivement ce mois d'août. On a l'impression, alors aujourd'hui justement, on parlait de ces relances, donc notamment de la réserve fédérale américaine, de ce qui s'est passé en Europe. Alors, les pessimistes du moment, on va dire, disent aujourd'hui, ce qu'on peut lire, c'est finalement aujourd'hui il n'y a plus de munitions. Les autorités monétaires n'ont plus de munitions, les politiques n'ont plus de munitions puisqu'ils sont ils doivent faire des économies, les États doivent faire des économies. Donc quelque part aujourd'hui, si effectivement la confiance ne revient pas, et donc au contraire, si à nouveau il y a un moment de défiance, il n'y a plus de soutien.
Alors effectivement, quand on est en période de crise, par définition, c'est qu'on ne voit pas de solution. Les solutions, elles existent, elles sont très différentes selon les régions du globe, parce que le monde, une fois de plus, même si c'est un village global, a une histoire, des coutumes et des organisations politiques différentes. À mon sens, il y a beaucoup de solutions aux États-Unis. La première des solutions aux États-Unis, ils ont commencé à le faire, c'est un dollar faible pour capter pour l'activité américaine, le peu de croissance que laisse la Chine au niveau mondial. Et c'est pas une vision malthusienne, c'est une réalité. La deuxième possibilité qu'ont les États-Unis, c'est le niveau de profit des entreprises américaines n'a jamais été aussi élevé, tout simplement parce que quand il y a eu crise, l'État américain a clairement privilégié les entreprises en baissant la fiscalité qui est tombée à un niveau extrêmement bas. Donc, reponctionner un peu par le biais de l'impôt et la baisse des dépenses,
c'est possible.
C'est possible. Le troisième facteur dépressif aux États-Unis, c'est l'immobilier résidentiel. 2 millions de logements, c'est l'équivalent d'une année de production de logements. On sait très bien comment ça fonctionne, le logement. Vous avez à Paris, pourquoi les prix montent? Parce que les gens ont le sentiment que Il y a un phénomène de rareté. Aux États-Unis, les prix baissent parce que quand vous voulez acheter une maison, vous ouvrez la fenêtre et il y en a 50 à vendre dans votre horizon. Vous mettez vous cantonnez les actifs immobiliers dans une structure de defeasance, vous les retirez de la vente en faisant des logements sociaux et vous avez résolu le problème de l'excès d'offres. Ça coûte 200 milliards d'investissements pour l'État américain, 200 milliards d'investissements par rapport à un quantitative easing 3, 4, 5, c'est tout à fait raisonnable. Les États-Unis ont des solutions. L'Europe, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on a un problème politique avant tout.
Alors, et quand vous entendez aujourd'hui, vous suivez l'actualité comme nous, vous entendez les États-Unis, il y a un complot contre l'Europe, contre l'euro, et les Américains veulent détruire cette zone euro. Quand vous entendez ça en tant que financier, est-ce que vous voyez des choses concrètes? Est-ce que vous voyez des attaques en provenance des États-Unis, de ventes
Dans la théorie du complot, non. La théorie de la balle perdue, oui. Il y a clairement un G2, parce que vous avez un gouvernement qui parle à un gouvernement. États-Unis, Chine. Il n'y a pas un G20. Le G20, c'est une vision d'une gouvernance mondiale où il faudrait que chacun, finalement, perde un peu de sa souveraineté. C'est inconcevable, enfin, en tout cas dans l'état actuel des mentalités. Donc, il y a effectivement des accords américano-chinois. Ils l'ont essayé sur le yen l'année dernière. Ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils dévaluent vis-à-vis du reste du monde pour privilégier les États-Unis. Qu'est-ce que font les Chinois? Ils préfèrent privilégier un pays avec un gouvernement qui est son principal débiteur et son principal client, plutôt que 27 pays qui aujourd'hui ne sont pas unis, dont on ne sait même pas, quand les Chinois disent « je soutiens la force de l'euro », il achète quoi? De la dette grecque ou du bund, à votre avis?
Alors, du côté de l'investisseur, du côté des particuliers comme des professionnels, on sent bien aussi qu'il y a eu des inquiétudes. On a vu ce qui s'est passé, bien sûr, sur l'or. On a vu le franc suisse. On parlait du bund. On voit ce qui se passe dessus. Tant qu'il y a cette peur, quelque part, qui se traduit par ces progressions de l'or ou du franc suisse, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement les investisseurs ne veulent pas aller sur le marché action, veulent attendre d'y voir plus clair finalement?
Ce qui me semble à peu près clair, c'est que beaucoup, beaucoup de la baisse du mois d'août n'est pas liée à des ventes des investisseurs, mais peut-être est-ce lié au trading hyperfréquence, c'est-à-dire à des mouvements qui finissent par s'emballer tout seuls avec des volumes très importants, mais finalement très peu de sorties. Donc il faut probablement déjà relativiser ça, même si les prix sont effectivement à ce niveau-là. Les investisseurs, ils ont peur, ils ont raison d'avoir peur, parce que finalement, tout ça entre la peur de perdre et la peur de gagner, ou de ne pas gagner, ou l'envie de gagner plus exactement, ce n'est pas en faveur aujourd'hui de la prise de risque. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux dire, rationnellement, le monde est en croissance. Et le monde est toujours globalement en croissance. La réalité, c'est que même si c'est très dommage pour notre économie européenne, il faut aller chercher la croissance là où elle est. Et elle ne sera pas, effectivement, chez nous, ce qui ne veut pas, en Europe, ce qui ne veut pas dire qu'on sera en récession. Simplement, on a un modèle dont on voit bien qu'on ne peut pas générer dans le contexte mondial, d'un village global, une croissance dans notre région.
En conclusion, ça veut dire pour des portefeuilles, de la protection, chercher de la protection, chercher de toute façon dans cette période-là un moyen d'éviter effectivement ces risques qui sont toujours là, qui sont toujours présents.
En conclusion, il est très probable, malheureusement, qu'on ait de nouvelles crises sur l'Europe et sur l'euro, parce que l'Europe ne peut avancer que par crise dans un système politique tel qu'il fonctionne. Donc effectivement, il vaut mieux éviter la dette européenne. Les actions des sociétés qui travaillent au niveau global, vous savez, entre un Total et un Exxon, c'est pareil. Donc à ce niveau-là, on peut aller vers ces sociétés qui travaillent au niveau mondial. On peut effectivement privilégier tous les actifs émergents parce qu'une fois de plus, la croissance est là. Les matières premières sont restées relativement chères, ce qui signifie très concrètement qu'il y a toujours une activité économique soutenue. Et ensuite, en ce qui concerne l'or, la relique barbare, c'est la peur. Le jour où la peur va diminuer, je crains fort que la relique barbare chute très fortement. Ce n'est pas une valeur refuge, c'est une valeur de spéculation.
Merci d'avoir fait le point avec nous donc sur cette situation sur les marchés. Xavier Lépine, en rappel, vous êtes donc le président du directoire du FG LFP.
Merci beaucoup.